Nous commençons tout de suite donc cette dernière rencontre. J'ai bien dit rencontre et dialogue entre d'une part Marc Baudrier à ma gauche et d'autre part Philippine de Saint-Pierre à ma droite. Je vais vous les présenter si tant est que ce soit nécessaire. Alors la formulation de cette rencontre est polymorphe et polysémique comme on dit. Ça veut dire qu'on va pouvoir dire beaucoup de choses et je pense que le débat va être très riche et que vous allez pouvoir partager. Comment les réseaux catholiques ont-ils su ou non réagir à l'actualité religieuse et sociétale ? Donc l'actualité religieuse et sociétale, vous voyez bien de quoi il s'agit, puisque c'est ce dont nous parlons depuis ce matin, notamment à travers les ateliers qui se sont déroulés cet après-midi. L'expression « réseau catholique », elle est évidemment polymorphe et polysémique. Hein. Les réseaux catholiques, c'est ceux qui ont été radiographiés par Marc Baudrier, qui est à ma gauche. C'est aussi beaucoup plus large que ça. Est-ce qu'il existe des lobbies catholiques ? Est-ce que les réseaux catholiques, c'est aussi aujourd'hui les réseaux sociaux ? Bref, nous allons demander à nos deux interlocuteurs ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont senti à travers cette diversité des réseaux catholiques face à l'actualité religieuse et sociétale de cette année. À ma gauche, Marc Baudrier, qui est né en 1967, qui est journaliste spécialiste des médias, qui a débuté sa carrière à Stratégie. Depuis 2005, Marc travaille au magazine Challenge. Il a été chroniqueur à RTL, l'émission Les Dessous de l'écran. Il est aujourd'hui chroniqueur tous les matins, radio classique, matinale. C'est difficile le matin. C'est difficile.
C'est fatigant. Oui.
C'est fatigant. Voilà. Son livre sur les réseaux cathos a été publié en 2010 chez Robert Laffont. Et donc, il brossait un portrait de catholiques aujourd'hui, minoritaires, fragiles, hétérogènes. Il dessinait une rupture générationnelle. Ce livre a été l'objet de débats, pas toujours consensuels. Mais disons que Marc a enquêté sur ces questions-là. À ma droite, Philippine de Saint-Pierre, directrice générale adjointe de KTO, la télévision catholique. Philippine a choisi cette voie, elle tient à le préciser lorsqu'elle intervient en public. Elle a travaillé dans la presse financière. Et donc aujourd'hui, et depuis déjà de nombreuses années, Philippine préside aux destinées de KTO. Voilà, eh bien, je vais d'abord donner la parole à notre voisin de gauche, Marc Baudrier, qui va nous livrer quelques réflexions dont nous espérons qu'elles seront stimulantes.
Ah, je m'attendais à une question. Voilà. Alors, d'abord, vous me demandiez à l'instant si l'Église et les catholiques étaient un lobby. Alors, on va commencer par répondre à ça. Moi, la réponse me paraît claire. Et c'est vrai que j'avais un peu cette crainte au moment de la parution de mon bouquin. Je me dis, moi, si on en fait une espèce de pieuvre prête à l'assaut de tous les pouvoirs des catholiques, d'abord, on sera quand même assez loin de la réalité. Ensuite, ça serait pas très bon pour nous. Mais je crois que non, les catholiques et l'Église n'ont absolument rien à voir avec des lobbies pour plusieurs raisons. D'abord parce que un lobby, qu'est-ce que c'est ? Il faut repartir de la définition et du but d'un lobby. Un lobby, c'est l'émanation d'un groupe d'intérêts qui travaille à améliorer la condition, généralement financière, d'un groupe, alors d'un groupe d'industrie, d'un groupe de gens, etc., en tirant les ficelles un peu dans l'ombre. Pour donc avec un objectif très très matériel quoi. Bon, l'Église c'est tout l'inverse quoi. C'est une organisation qui travaille d'abord à découvert en permanence. Nos églises sont ouvertes, les prêches, tout le monde peut y aller, qui travaille pas pour l'intérêt particulier de telle ou telle branche, mais pour l'intérêt général. Donc on peut pas être aussi loin de la définition d'un lobby que celle de l'Église catholique, ce qui n'empêche pas, évidemment, et on pourra y revenir, d'être apôtre, évidemment, de rayonner, d'essayer de convaincre, de faire partager une conviction, mais quelqu'un qui est de droite ou de gauche ou de centre ou autre, il essaie de faire partager ses convictions et il ne constitue pas pour autant un lobby. Voilà.
Alors, qu'avez-vous pu observer pendant cette année autour de l'actualité religieuse et sociétale ? Comment ces réseaux qui ne sont pas des lobbies, ces réseaux que vous aviez donc travaillé, sur lesquels vous avez enquêté pour ce livre, publié chez Robert Laffont en 2010, qu'est-ce que vous avez pu voir de leurs activités réelles ou supposées durant cette année 2013 ?
J'ai pu constater vérifier plutôt le constat que j'avais fait dans ce livre, c'est-à-dire que finalement il n'y a plus beaucoup de réseaux, quoi, et que le web, l'apparition du web et des médias internet qui sont extrêmement rapides et surtout qui eux travaillent en réseau pour le coup, tout ça c'est un instrument de subversion absolument incroyable de tous les pouvoirs organisés et constitués. Donc les pouvoirs politiques, les pouvoirs sociétaux, et aussi de l'Église elle-même et de sa hiérarchie classique. Alors il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est de comparer la mobilisation pour les grandes manifestations de 84 pour l'école libre et la mobilisation là contre le mariage homo. À peu près le même nombre de gens dans les manifestations, des très grosses manifestations, un retentissement national tout à fait comparable, un résultat qui n'est pas le même, mais bon, ça peu importe. Et la comparaison, si vous voulez, est assez frappante quand on regarde comment est-ce que les initiateurs de ces manifestations ont essayé de mobiliser. Au moment de 84, de l'école libre, on a eu les associations familiales catholiques qui se sont saisies de ce sujet très tôt et qui ont eu un mal de chien à mobiliser, d'abord en province, ensuite dans des plus villes plus grandes, et ça a pris des années. Ils ont été secoués, leurs évêques, et ils ont été secoués tous les journaux qui ne voulaient rien dire au départ, qui étaient frileux comme pas permis. Ça a pris des mois et des mois et des mois et des mois pour lancer cette manifestation qui a abouti finalement à ce feu d'artifice du juin, je crois, mai ou juin 84. On voit bien que, et on est passé par des organismes, hein, encore une fois, donc les associations familiales catholiques qui ont été obligées de convaincre l'Église, enfin, on est passé par des institutions. Là, il s'est passé exactement l'inverse. Donc c'est l'ami Frigide Barjot qui, un peu explosive comme elle est, s'est énervée un beau jour, a décidé d'aller poser des roses blanches. Je me souviens, elle m'avait appelé, elle trouvait ça complètement stupide, donc je n'y ai pas été. Bon, petit à petit, mais très très vite finalement, ça a pris une ampleur absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que entre les deux, il y a le web, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet évidemment, et on monte aujourd'hui une personne un peu maligne ou une personne qui a trouvé les mots ou une personne qui a rebondi au bon moment sur un événement un peu fédérateur, une personne qui est un peu médiatique. En deux jours, eh ben, elle monte une manifestation pour laquelle il aurait fallu 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, il y a encore 20 ou 30 ans.
Mais alors, comment analyser ce paradoxe ? D'une part, vous dites qu'il n'existe plus de réseau catho, et d'autre part, vous dites, notamment à travers Internet, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu et incroyable, et qui n'a abouti, en fait, qui n'a pas été efficace, qui n'a abouti à aucun résultat. Comment analyser ce paradoxe ? Est-ce qu'il s'agit d'un déplacement des réseaux catho sur d'autres supports, sous une autre forme ?
Non, je ne crois pas. Je crois que, si vous voulez, on voit bien, Frigide Barjot ne s'est pas appuyé sur une institution, sur un organisme qui avait des antennes partout, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané que ça. Et donc... Donc il y a évidemment des réseaux, il y a de tous ordres, hein, dans l'Église, on les connaît tous, de la paroisse au mouvement d'Église, bref, et qui embraye plus ou moins derrière ensuite ce type de mobilisation. Mais ça a marché parce qu'elle est tombée au bon moment, un moment aussi, on y reviendra peut-être, où de manière un peu sociologique, les catholiques qui sont devenus minoritaires, il faut qu'ils se le disent avec courage parfois, mais ça a aussi énormément de côtés très enthousiasmants, à ce moment-là, ils ont envie de se mobiliser, notamment les jeunes, ils ont envie de faire savoir, c'est leur identité, c'est leur idéal, et ils ont envie d'y aller. Et donc, Frigide, qui participe un peu de ce mouvement-là aussi, a lancé ça un peu de manière un peu folle, parce que ça lui ressemblait, et ça a pris cette ampleur qu'on connaît tous. Mais on est très loin, justement, d'un travail en réseau organisé.
Alors, Philippine, quel regard porter sur tout ça ? Vu de KTO, les réseaux KTO existent-ils toujours ?
Oui, il y en a plein, peut-être pour la joie du débat, pour tempérer un peu, de mon point de vue, ce que vient de dire Marc. On va pas détailler d'abord parce que je suis pas sûre que quiconque comprenne tout, y compris les participants, les arcanes du montage des manifs pour tous dans le temps, mais il y a l'émergence d'une personne, d'une médiatisation qui peut, avec les réseaux sociaux, mobiliser très vite et avoir une visibilité très, très rapide, comme vous l'avez dit. Ce qui ne veut pas dire que les réseaux que vous évoquiez de 1984 notamment soient totalement absents. Parce que dès l'origine de ce mouvement et dès la préparation de la première manifestation du 17 novembre, il y avait eu dans les semaines et les mois qui ont précédé des réunions de concertation avec des acteurs classiques des réseaux catholiques, en particulier les réseaux associatifs, dont les associations familiales catholiques qu'on retrouve là aussi et qui mobilisent de la même manière par un maillage territorial finalement très, très classique. Donc c'est plutôt, me semble-t-il, aujourd'hui des associations sur des convergences qui peuvent d'ailleurs être des associations tout à fait mouvantes d'un sujet à un autre avec pas nécessairement les mêmes composantes sur le sujet de la manif pour tous, que sur le sujet de la fin de vie, que sur d'autres questions de société. Alors évidemment, c'est très amplifié par le web. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au fond, ça a rendu visible une évolution qui me paraît majeure dans la prise de parole, en tout cas, et dans l'organisation d'action de la part des catholiques dans la société. C'est ce que j'ai envie d'appeler la fin du mandat. On a longtemps été dans l'idée que pour parler comme catholique, il fallait un mandat. Donc, soit on était porte-parole
d'une mission, on appelle ça.
Oui, soit on était responsable d'une association. On avait un titre qui vous permettait de prendre la parole médiatiquement, mais aussi dans la sphère sociale, comme catholique. Et évidemment, la sphère Internet, les nouveaux réseaux, mais aussi, peut-être plus profondément, le Concile Vatican II, l'implication des laïcs et leur compréhension de leur propre co-responsabilité dans la vie de l'Église ont fait qu'aujourd'hui, on est sorti de cette logique de mandat. Et donc, on a toutes sortes de gens qui peuvent affirmer qu'ils sont catholiques, qu'ils s'expriment en tant que catholiques et qu'à ce titre, ils organisent ou proposent ou interviennent, en tout cas dans le débat public. Donc voilà, c'est pour compléter ce que disait Marc. Alors avec cette particularité que du coup ça devient peut-être beaucoup moins lisible, parce que ce que provoque aussi cette expression multiforme, ça peut être assez rapidement une survalorisation des marges, qui sont évidemment, plus elles sont à la marge, plus elles sont mobilisatrices d'un microcosme, mais lequel devient très vite extrêmement visible à force de réplication par les uns et les autres du même message. Et puis c'est aussi l'apparition d'individualités qui rapidement peuvent devenir des leaders ou des chefs de file sans que nécessairement leur positionnement, leur motivation soit aussi lisible que l'étaient pour les journalistes, pour les observateurs, les associations constituées ou même les réseaux connus comme on peut les retrouver dans le livre de Marc.
Merci beaucoup. Mais alors, Marc Modrier, cette fin du mandat, cette auto-légitimité, cette survalorisation des marges, cette émergence d'individualité incontrôlée, incontrôlable, peut-être pas toujours par elle-même, est-ce que c'est pas finalement un défi profond à l'Église institution qui contrôle plus rien ?
Si, c'est évident, à l'Église institution comme à toutes les institutions. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je suis tout à fait d'accord avec... ce que vous avez dit, évidemment, il y a plein d'associations, je reviens là-dessus deux secondes, qui derrière cette initiative un peu échevelée comme ça, ont structuré tout ça, on s'en doute bien, et qu'elles étaient absolument indispensables, c'est vrai. Mais c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à une cristallisation extraordinairement rapide autour d'une personnalité et d'une idée. Il faut les deux, il faut une personnalité forte, médiatique, qui parle, qui passe, à laquelle les gens adhèrent plus ou moins, s'identifient plus ou moins, en tout cas qu'ils voient, qu'ils vivent, qu'ils palpitent sous leurs yeux. Ça, c'est très important dans une société qui est quand même médiatique, qui est quand même très dominée, même écrasée par l'audiovisuel et par l'image. Et donc, alors évidemment, c'est un atout énorme quand elle apparaît dans le bon sens et que finalement elle catalyse cette envie dont on a parlé tout à l'heure. C'est certainement un risque quand elle vient dans on ne sait où. Mais ceci dit, là, Internet et le grand réseau, le World Wide Web, est aussi très réactif dans le sens inverse. Et on voit des emballements qui se calment très vite. Parce que ben on s'aperçoit que finalement on est la personnalité qui sur laquelle on attire votre attention est peut-être pas aussi représentative de vos idées, etc. Les gens sont quand même pas fous, les catholiques sont pas fous, ils sont pas prêts à suivre n'importe quelle personne qui surgirait comme un diable d'une boîte à un moment. Et puis l'Église a quand même aussi sa part de voix. Je veux dire, c'est certain que tous les catholiques font quand même attention, me semble-t-il, à ce que vont dire leur curé, ce que vont dire leur évêque. Alors ils interviennent après, peut-être dans un second temps, c'est vrai, et puis ils ont la prudence qui sied à leur état. Mais bon, ils ne sont pas absents. Hein, voilà. Donc je ne pense pas qu'on risque, en tout cas dans la sphère catholique, après ça dans la sphère sociale en France, etc., c'est encore autre chose. Mais les catholiques ne sont pas des ludions complètement excités et prêts à partir de tous les côtés. On a quand même le sentiment de faire partie d'une communauté constituée et qui a aussi une certaine fragilité, on y reviendra peut-être, et donc on n'a pas envie de l'affaiblir encore. Et donc tout ça, ça va dans le sens quand même d'un élargissement des idées, du travail de l'élargissement d'un idéal aussi religieux, sociétal, qui s'épanouit comme ça et pas dans le sens inverse, je crois.
Philippine, une réaction ?
Oui, je pense que c'est un défi, évidemment, pour l'institution. Ça modifie substantiellement le contrôle de la parole et du message qui peut être étiqueté catholique et qui, par voie médiatique ou par les réseaux sociaux, se répand. Et en même temps, c'est un défi qui est très, très intéressant, au moins de deux façons en première lecture, me semble-t-il. Le premier, c'est que on est de toute façon dans une période où il y a une très grande dévalorisation de toute parole institutionnelle. Et par conséquent, c'est plutôt bon pour l'Église, avec un grand E, pour le message de l'Évangile, que sa seule visibilité ne soit pas une parole institutionnelle qui, aujourd'hui, est très peu reçue par nos contemporains. On est plutôt... dit-on, selon la formule, dans un siècle de témoins, donc le fait qu'il y ait des catholiques qui représentent eux-mêmes ou un ensemble un peu plus large qui interviennent me semble plutôt bénéfique pour la propagation du message, pour l'intervention dans le débat et pour la culture de la rencontre, comme dit le pape François. Et puis alors, l'autre élément qui me semble intéressant pour l'Église dans ce contexte-là, c'est que la perte de ce monopole de la parole institutionnelle intervient aussi au moment de l'émergence d'une génération de laïcs catholiques engagés qui assume très sereinement une grande fidélité à l'institution. Et que par conséquent, au fond, au lieu d'avoir une parole institutionnelle et puis une parole d'opposition, on a plutôt une parole libre de catholiques qui, pas tous, mais pour beaucoup dans la jeune génération, relayent très volontiers l'enseignement qu'ils ont reçu de l'Église.
Alors déplaçons le débat sur l'aspect professionnel. Vous vous accordez à reconnaître la place éminente qu'a occupé le web, les réseaux sociaux dans cette affaire l'année dernière. On a pu avoir le sentiment qu'un certain nombre de médias traditionnels étaient un peu à la remorque, étaient un peu, en tout cas qu'ils étaient peut-être déconsidérés par un certain nombre de personnes actives et militantes et qui avaient tendance à survaloriser les réseaux sociaux. L'un de vous l'a dit tout à l'heure, on trouve sur les réseaux le meilleur et le pire, les emballements, les rumeurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aux médias traditionnels qui se sont trouvés confrontés à cette efflorescence Internet incontrôlée, non mandatée et qui contenait le meilleur et le pire ? Marc Baudrier.
Je crois qu'ils ont un rôle majeur parce que, si vous voulez, on sait, quand on se penche sur le web et sur nos boîtes e-mail, que on a absolument de tout et il y a une crédibilité. Justement, La Croix sort ce matin son sondage annuel sur la crédibilité des médias. Et bon, on reste toujours à peu près dans les mêmes eaux. La crédibilité d'Internet apparaît ce matin à 35%, si ma mémoire est bonne. Elle est très, 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 très loin de l'ensemble des autres médias qui sont déjà extraordinairement faibles, il faut le signaler. Les Français ne croient pas leurs médias. La télévision et la radio et la presse sont entre 55 et 60, ou entre 50 et 60 % de crédibilité, ce qui veut dire qu'il y en a quand même entre 40 et 45% des Français qui considèrent que la radio, la télévision et la presse racontent n'importe quoi. Bon, ils sont.
Peut-être ce report sur le web.
Voilà. Et ils sont, oui, mais sur le web, ils sont 65% à penser qu'il ne faut pas croire ça. Bon. Donc, c'est plus grave encore. Et donc, le rôle des médias, et notamment des médias catholiques, me semble-t-il, c'est justement de rassurer, de faire le tri, de dire à leurs abonnés, qui, eux, pour les coups, ont toute confiance en eux, puisque sinon ils ne s'abonneraient pas, donc de leur dire, ben voilà, ça c'est une initiative intéressante, remarquable, enthousiasmante, on va vous raconter ça, et il faut y aller, c'est n'importe quoi. Faire le tri et donner de la profondeur aussi, donner des réassurances, donner de la profondeur aux raisons qui animent et à ces mobilisations. Je me souviens, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu sur Internet un espèce de feu de paille, là, comme ça, comme il en arrive de temps en temps. On nous disait que Lucie de Fatima, si j'ai bonne mémoire, avait eu des apparitions, qu'elle demandait une neuvaine. Enfin bref, ça avait pris une ampleur incroyable et j'avais lu dans un média catholique, je ne sais plus lequel c'était La Croix ou un autre, que bon, le couvent là-bas était complètement surpris de ce truc-là. Ils avaient entendu parler de rien. Enfin bon, c'était un canular et un canard somptueux, comme il y en a beaucoup. Je crois que la presse, elle a un rôle énorme, justement, d'autant plus important à jouer que sur Internet, eh ben, on a un peu à boire et à manger.
Donc, Philippine de Saint-Pierre, dans ce paysage que vous avez décrit, avec une prééminence du web, reste-t-il un rôle à jouer pour les médias traditionnels ?
Oui, de faire leur boulot. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc sur la nécessité, justement, du travail de journaliste, de l'enquête, de la véracité de l'information, que les marques de médias garantissent en principe, même si on voit que leur crédibilité n'est pas au sommet des courbes aujourd'hui, mais de faire leur boulot, parce que le paradoxe, c'est aussi que y a des sujets qui sont volontiers boycottés. Si on prend la manif pour tous, avant le 17 novembre, le sujet existait déjà. Et il y avait déjà un certain nombre de gens qui avaient essayé de prendre la parole, dont les organisateurs multiples et variés de cette première rencontre. Et c'était impossible. C'était impossible parce que la doxa médiatique avait décidé qu'il n'y avait pas de sujet. C'était un non-sujet. Par conséquent, dans cette situation-là, quand les médias généralistes ne font pas leur boulot, quand ils décident de façon péremptoire que c'est un non-sujet et qu'on ne va pas le traiter, alors, de fait, la sphère Internet prend le relais, avec d'autant plus de légitimité auprès de certains qu'on lutte contre un boycott, qu'il faut rétablir la vérité, etc. Et c'est ça qui me paraît dangereux. C'est qu'au fond, quand les médias généralistes... Moi, je l'ai vu dans la couverture, j'allais dire compensatoire, que nous, on a faite pour KTO, donnant la parole à des gens qui n'avaient pas droit de citer dans les médias pendant tout l'automne 2012, et n'ayant plus nécessité à le faire au même rythme à partir du moment où l'ensemble des autres télévisions s'est mise à couvrir le sujet de façon tout à fait contradictoire, mais journalistique, ce qui n'était pas le cas à l'automne.
Une réaction ?
Oui, non, pas de réaction. Non, non, elle a tout dit, Philippine.
C'est parfait. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole à la salle, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont des réactions, des ressentis et des débriefings à faire sur tout ce qui s'est passé dans cette histoire de réseau et de médias traditionnels. Si vous aviez un conseil à donner aux institutions, c'est-à-dire si vous aviez un conseil à donner à l'Église, on peut, voilà, je sais pas, Supposer que la conférence épiscopale réfléchisse sur la stratégie à mener pour le futur débat sociétal sur la fin de vie, supposons que le président de la conférence épiscopale vous convoque en bilatéral. Quel conseil lui donneriez-vous, Marc Baudrier ?
Aïe, 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 c'est vraiment une colle et un piège en plus. Donc, écoutez, qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais de casser l'armure, de briser l'armure. Je lui dirais allez-y, prenez des risques, allez sur les plateaux de télé, allez rencontrer les journalistes, invitez-les à dîner, parlez, et voilà, exposez-vous, prenez le maximum de risques. Voilà ce que je lui dirais.
Je vois que Vincent Fauvel a pris des notes précises. Ceci sera rapporté. Alors, Philippine, face à face au président, tu dis quoi ?
Voilà, la même chose, peut-être pour employer un langage plus tribal, je dirais n'ayez pas peur. Oui, je crois que c'est le principal handicap, c'est la volonté de rester dans quelque chose qui soit sans trop d'aspérité, qui puisse rassembler, pas provoquer de clivage, etc. Je crois qu'il faut assumer qu'il y a des diversités d'opinions à l'intérieur de l'Église et parmi les catholiques, et que ces diversités sont légitimes, mais qu'il faut aussi que les évêques, puisque c'est la question posée, n'aient pas peur de prendre la parole et d'intervenir dans le débat.
Oui, non,
quitte à ce qu'on puisse dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, du reste, c'est pas forcément pécamineux, tout dépend du sujet.
Voilà, et qui prennent la parole surtout avec des messages forts et pas forcément consensuels, parce que je crois qu'on est dans une période, si vous voulez, où les publics des médias ont besoin de clivage, ils ont besoin de débat, ils ont besoin d'avis tranchés.
De clivage ou de débat ?
Les deux.
Et de dialogue peut-être ?
De dialogue aussi, bien sûr, mais de clivage. Dans toutes les nouvelles émissions, et encore la dernière de Ruquier, là, fonctionne là-dessus, sur des clivages, sur des gens qui attaquent, qui accusent,
et donc
qui se défendent. Et donc, les gens ont envie de débat.
Donc, il faut y aller ?
Et donc, il faut y aller. Il faut que, je crois, que les catholiques s'assument et puis aillent dans ces arènes, descendent dans l'arène, et puis assument leurs idées, et assument aussi, ils passeront d'autant mieux dans la société contemporaine que finalement le consensus mou est rejeté par la société contemporaine et ne marche plus, notamment dans les médias.
Il faut se prêter à la règle du jeu, c'est ça.
Il faut se prêter à la règle du jeu et surtout n'avoir plus peur du tout de ses opinions, plus peur d'opinions qui ne soient pas consensuelles, parce que c'est ce que les médias et ce que la société demandent. Voilà.
Peut-être en choisissant quand même parfois où on va, parce qu'il y a aussi quelquefois des règles du jeu qui sont tellement pipées à l'avance que ça peut être...
Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller chez Ruquier, personnellement. Voyez-vous.
Vous avez tort.
C'est possible.
Ça très bien.
C'est possible, mais ce n'est pas sûr.
Mais quand dans son message pour la communication, qu'il a donc rendu public aujourd'hui, le pape François nous invite à ce que notre parole soit notamment comme une huile. C'est important de réfléchir à ça. J'y pense depuis ce matin. Pourquoi ? Parce que c'est très important que la parole des chrétiens ne soit pas systématiquement une parole contre l'évolution de la société. On se le répète depuis des années. En même temps, il faut savoir porter des messages forts quand on est en désaccord profond et il ne faut pas non plus essayer de les cacher sous quelque chose de complètement lisse. L'huile, c'est quelque chose qui peut être un onguent et c'est nécessaire sur les détresses. Le message de compassion, il est le premier. Mais néanmoins, ce n'est pas un liquide comme la flotte. Ce n'est pas un truc qui glisse sans rien et c'est parfumé. Ça laisse quelque chose. Donc ça ne doit pas être juste le fil du robinet.
Faut-il jeter de l'huile sur le feu ? C'est-à-dire que l'huile, effectivement, c'est un onguent.
Si c'est dans la nuit de Pâques, oui.
Bonne réponse. Voilà. Donc, ben voilà, vous voyez bien le type de débat que nous avons. Certains des thèmes de ce débat avaient déjà été abordés dans l'atelier tout à l'heure, animé par Martin Ferron avec Anne Ponce. On avait vu la diversité, effectivement, du moins pour ce que j'ai pu observer, la diversité des points de vue. Je crois que maintenant, nous avons encore un bon quart d'heure pour débattre entre nous. La Confédération helvétique va s'exprimer. Alors, l'un des micros, voilà.
Alors,
si tu peux te présenter. Non, c'est bon, ça marche. Bon, ça marche. Si tu peux te présenter en deux mots.
Alors, Jacques Berset, je suis journaliste à l'agence APIC depuis 31 ans. Donc, j'ai vu beaucoup d'évolutions. Mais je suis quand même inquiète de ce que j'ai entendu de la part de M. Baudrier. C'est un langage de guerre civile. Je le dis parce que nous avons l'habitude, nous, de la discussion à pas feutré en Suisse, d'un certain nombre de consensus, et j'ai l'impression que ce type de langage, c'est vraiment un langage typique de la France. Nous, on a de la difficulté à comprendre ce genre d'opposition frontale. Et qu'est-ce qu'on attend chez vous ? C'est qu'on change de gouvernement, et après, quand on a un gouvernement qu'on a voulu, on en veut un autre.
Nous demanderons leur avis à nos amis canadiens. Peut-être que nos amis canadiens ont leur point de vue là-dessus, parce que sur les bonnes pratiques, enfin, je veux dire, vous avez une expérience qui nous est tout à fait étrangère, peut-être.
Allons-y. Je vais revenir sur un autre point de vue. Alors, cet été, le 16 juillet, je pense qu'il y a eu des images qui ont fait le tour de la planète, un événement, la catastrophe de Lac Mégantic, un train qui a explosé, il y avait du pétrole et pratiquement le centre-ville a été détruit. Alors, c'est dans notre diocèse. Ça a été, du point de vue de l'Église, ça a été géré comme une crise, très bien géré. On est allé chercher des experts. Et, bon, heureusement, c'est une chance pour nous. On avait un jeune curé qui passait bien dans les médias, qui était articulé, puis qui a été bien assisté. L'église de Lac-Mégantic est située face à la catastrophe, et juste face à la catastrophe, il y a un Sacré-Cœur, les bras ouverts. Alors, ces images ont fait le tour de la planète à maintes et maintes reprises. Donc, l'église a été très présente. Et même la messe commémorative pour cet événement a été rediffusée 3 fois dans les médias séculiers, ce qui est tout à fait...
ce qui, dans le contexte canadien, est très extraordinaire.
Est unique. Et avec beaucoup, beaucoup de respect de la part des journalistes du monde séculier. Et les journalistes du monde séculier, bon, la place de l'Église au Québec, on n'en a pratiquement pas actuellement. Et là, on a eu de la place parce que je pense qu'on a su répondre, on a su être là. Et il s'est passé aussi dans cette église, rapidement, l'église faisait partie de la zone sinistrée. Alors, c'était une priorité pour l'église paroissiale de pouvoir ouvrir l'église. Alors, une semaine après l'événement, c'était ouvert et... on a organisé tout un système d'écoute. Les gens venaient dans cette église, il y avait tout un mémorial. Et les gens venaient, même s'ils n'étaient pas touchés directement par la perte d'un être cher ou une famille, il se passait quelque chose en eux. Ils arrivaient là, ils se mettaient à pleurer, ça remontait des choses. Il y a des gens non-croyants qui venaient, qui s'assoyaient en arrière de l'église la première journée. 2 jours plus tard, il était un petit peu plus proche. Alors, ces gens-là venaient chercher du réconfort. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons une jeune communauté de prêtres, la famille Marie-Jeunesse, qui sont venus donner du temps aussi. Et le fait qu'ils étaient costumés, bien, les gens allaient...
Costumés, c'est-à-dire?
Ils ont des costumes blancs.
Ils portaient un habit religieux.
C'est voilà. Ça. Donc, les gens allaient spontanément vers oui, le...
c'est ça.
Les gens avaient besoin de parler à un prêtre, d'être écoutés, de pouvoir questionner.
Y compris des non-croyants.
Absolument.
D'accord.
Beaucoup de non-croyants. Okay. Et c'était un événement qui a soulevé tellement de solidarité. Alors, c'est là qu'on a vu que les gens qui se sont éloignés de l'Église étaient là. Donc, des événements... C'est autour de catastrophes mm-hmm. que... On doit profiter de cette occasion-là comme Église.
Si l'on peut dire.
Oui.
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'ai une autre question à poser à nos amis canadiens, mais avant peut-être la réponse sur la guerre civile tout à l'heure. Je pense que Marc Baudrier veut répondre.
Oui, alors, pardon, si on m'avait dit qu'il y avait un Suisse, j'aurais beaucoup modéré mes propos, parce qu'évidemment, en Suisse, il faut faire attention et le consensus, et vous avez un amour du consensus qui est tout à votre honneur. Mais non, ce que je veux dire, c'est pas, évidemment, il ne faut pas mettre le feu partout, c'est pas ça que j'appelle, simplement à tourner la page d'une certaine... crainte, d'une certaine peur, d'une certaine timidité à aller dans les médias, notamment, de la part part de l'Église et des représentants de l'Église, qui, je crois, lui a beaucoup nui. On a été beaucoup absent des grands débats, l'Église. Les catholiques ont eu peur de se faire un peu écharper, etc. Et à force d'avoir peur, eh ben, on a laissé notre place à d'autres. Et je ne crois pas que ce soit très favorable. Au contraire, je crois que la société aujourd'hui accepte mieux la différence, y compris la foi des uns et des autres, qu'elle ne pouvait le faire peut-être dans les années 70, où c'était plus clivé et où on acceptait moins bien des idées tranchées qui ne soient pas exactement les siennes. Voilà, c'est tout.
Je pense qu'il est, il est clair aussi que, que ce soit, pour revenir au mandat, que ce soit un évêque qui soit sur un plateau de télévision ou que ce soit un catho invité en tant que tel, on n'a pas d'idéologie à défendre. Donc on n'est pas dans une posture d'opposition idéologique, c'est absolument pas le propos. Mais ça n'empêche pas que votre oui soit oui et que votre non soit non, et qu'il y a une certaine authenticité et fermeté dans l'expression de la conviction qui est nécessaire aujourd'hui pour que dans la sphère médiatique le message soit entendu, me semble-t-il.
Alors, une personne expérimentée, Isabelle de Gaumin, qui est souvent sur les plateaux de télévision. Donc
Isabelle de Gaumin. Non, je voulais juste réagir très rapidement. Je crois qu'il y a aussi un problème du statut de l'évêque. Qu'est-ce que l'évêque ? C'est-à-dire que si on s'en tient à la faute ex Vatican II, mais aussi à ce que nous dit beaucoup le pape François, l'évêque, c'est un pasteur qui est derrière les fidèles, qui est là pour rassembler, pour unifier, pour les conduire. Il n'est pas forcément à être dans une position trop de porte-parole ou au milieu. Mais je trouve que c'est compliqué parce qu'on est en train de confondre un peu la fonction de l'évêque et puis peut-être le porte-parole. Et c'est peut-être à des laïcs d'être plus porte-parole et de dire leur position, qui parfois peuvent être diverses. Je pense que l'Église, elle est diversifiée. Deuxième remarque, c'est ce qui, moi, m'inquiète un peu, c'est que je me demande ce qu'on va faire maintenant, parce que bon, là, il y a eu quand même pas mal de manifestations sur l'histoire du mariage pour tous. Donc, est-ce qu'on va recommencer à manifester pour la fin de vie, pour l'IVG ? Est-ce qu'on va... Voilà, jusqu'où est-ce qu'on va manifester ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, aujourd'hui, pour les catholiques, de s'exprimer par rapport à la société et au fait de société que la manifestation ? Parce que dans ce cas-là, on est parti pour 5 ans de manifestation.
Bruno Courtois, Radio Notre-Dame.
Le commentaire, il rejoint en fait ce que disait Isabelle, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant toute l'année dernière, toutes les manifestations, je trouve que ce sont justement les laïcs qui sont montés au créneau, suivis, c'est vrai, par les évêques. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Église, c'est aussi les laïcs, et c'est peut-être avant tout nous tous. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus, je crois, attendre des évêques qui nous demandent ce qu'il faut faire. On peut travailler avec eux, mais je crois que l'exemple de l'année dernière est assez frappant. Tous ceux qui ont organisé cette manifestation, c'était des laïcs. Et peut-être que ce n'était pas le cas, d'ailleurs, à l'époque de la manifestation de 84 sur l'école libre, où là, on avait vu que le père Guiberto et tous les diocèses étaient effectivement vent debout.
Ici, juste devant, et puis le Padre Bloch derrière brûle d'impatience de nous causer.
Jean-Brice Villemin, voilà. Je suis aussi journaliste suisse, porte-parole de l'Église catholique.
Mais ils sont partout.
Je suis franco-suisse, je connais bien le débat politique français, et j'étais très surpris que les médias catholiques fassent croire que tous les catholiques étaient derrière le mouvement anti-gay et contre le mariage catholique. Ce n'est pas vrai du tout.
Le mariage homo. Contre le mariage homo.
Contre le mariage homo. Et j'ai connu beaucoup de prêtres catholiques de l'ancienne génération qui ont essayé notamment de faire valoir le point de vue de certains catholiques qui étaient ouverts au dialogue avec les partisans de ce mariage et qui n'ont pas trouvé de tribune facilement, notamment à la croix. Et je regrette justement qu'il était si difficile de faire valoir cette opinion. Heureusement que certains évêques, sur la fin de ce débat, aient dit « Oui, attention, ne nous braquons pas trop, soyons ouverts, tout le monde n'a pas les mêmes opinions que vous pensez avoir ».
Merci beaucoup pour cette contribution. Je voudrais demander à nos amis canadiens, je vais donner la parole au Padre Bloch, si tu veux bien, Hervé, nos amis canadiens ici, je voudrais leur demander, compte tenu de leur expérience autour du mariage homosexuel, etc., quel regard vous avez porté sur nos affaires et sur cette ébullition qui a duré plusieurs mois en France, à la fois en tant que catholique et en tant qu'homme de médias, quel regard vous avez porté sur nos affaires, vu d'outre-Atlantique ?
Jean-François Bouchard, je travaille à Bayard Canada, donc dans l'équipe de direction. D'abord, il faut se dire quand même, sans vouloir esquiver la question, on est à 6000 km de distance avec nos propres enjeux sociaux, politiques et économiques, et particulièrement au cours de la dernière année, qui ont été beaucoup mobilisés par le débat lancé par le gouvernement lui-même sur la laïcité de l'État. Donc on a été beaucoup, mobilisés au plan médiatique sur ces questions. Donc le bruissement de l'information internationale dont faisait partie ce qui se passait en France a attiré l'attention, mais d'une manière quand même relative, puisque dans chaque pays, on est quand même centré un peu sur, hélas, parfois trop, sur ces enjeux nationaux. Ceci dit, y compris dans les milieux catholiques, y compris dans les milieux d'information catholique et de communication catholique, l'ampleur qu'a prise la mobilisation sociale autour du mariage a beaucoup étonné, beaucoup surpris. Et le décodage, qui n'est pas terminé, y compris à l'intérieur de l'Hexagone,
on le voit bien
aujourd'hui, est très clair. De ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de décanter, eh bien, imaginez-vous à 6000 km de distance où on en était. Cette question, nous, du mariage, est une question qui était au plan légal derrière nous depuis plusieurs années, qui avait passé par un débat juridique et pas par un débat législatif, ce qui fait qu'il avait passé relativement inaperçu, mais quand même que l'Église s'était quand même exprimée très clairement, avait clairement exprimé son opposition, mais la chose était acquise et derrière nous. Et donc, évidemment, la surprise pour nous a été d'autant plus grande.
Merci beaucoup pour ce regard extérieur. Alors Hervé, tout à fait au fond, le père Amar, si je ne me trompe pas, voudrait s'exprimer.
Oui, merci. Donc ma question pour Marc Baudrier. Ce soir, sur le Grand Journal, pour commenter le voyage du président demain au Vatican, représentent l'Église catholique Christine Pedotti et Christine Boutin. Voilà, ce sont les deux visages qu'on a trouvés ce soir.
Oui, parce que nous, on est là, on ne peut pas y aller. Donc oui, c'est voilà, ça. C'est pour ça.
Je le regrette. Ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer un espèce de pool de porte-parole pour l'Église, formé à la fois de prêtres et de laïcs, les deux, parce que pour certains sujets, par exemple l'avortement, je pense qu'une femme serait plus à même sur un plateau télé d'en parler qu'un prêtre. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer une initiative voilà, un pool de porte-parole, un peu comme ce qui s'était fait lors de la visite de Benoît XVI à Londres avec Catholic Voices?
Oui, alors c'est une idée, c'est évidemment une bonne idée, qui tourne depuis longtemps dans l'Église, mais qui est bonne vue de loin et pas si facile à mettre en œuvre quand on est dans une rédaction comme moi, par exemple, qui n'est pas une rédaction catholique.
Et, séculière, comme diraient nos amis canadiens.
Séculière, voilà. Donc, dans une rédaction séculière, le journaliste séculier appelle, il a un peu ses têtes, ses noms, il a ses interlocuteurs dont il considère qu'ils s'expriment plus ou moins bien à l'antenne, dont il considère qu'ils sont disponibles ou pas disponibles, libres ou pas libres, libres de parole, j'entends, ou pas libres de parole, etc. Du coup, c'est compliqué de lui dire à ce journaliste, nous on est l'Église et on va vous proposer 10 personnes ou 4 personnes, et puis si ça ne vous plaît pas, tant pis, vous n'aurez qu'à faire le commentaire vous-même. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça, on bute là-dessus. Mais ça n'empêcherait pas d'essayer de faire surgir des personnalités qui représentent telle ou telle cause. On peut travailler là-dessus, mais c'est pas mathématique, quoi. Voilà, ça vous empêcherait pas les journalistes d'appeler quelqu'un d'autre alors qu'on pensait qu'on avait positionné telle ou telle personne. Mais ça n'empêche pas d'essayer de le faire et ça peut marcher très bien aussi.
Non. Merci. Il nous reste du temps pour une ou deux contributions au fond et puis ici.
Oui, Marc, vous parliez de clivage. Je crois que sur la question du débat du mariage pour tous, le clivage, il a bien été là, et caricatural, tellement caricatural qu'il n'a apporté à personne. C'est d'un côté de présenter une Église catho classique, figée dans ses positions, j'allais dire de droite, et le reste ailleurs. Moi, ce qui m'intéresserait, et je crois quand même qu'il y a un certain nombre de médias catho qui ont participé à cela, c'est de dire, au cœur de notre Église. Comment sommes-nous en capacité de pouvoir faire vivre ce débat ? Comment, au cœur de nos communautés paroissiales, nous pouvons aborder, dialoguer, pour pouvoir construire une vie d'Église, une vie communautaire, en relation avec les questions de notre monde ? C'est ça, moi, qui m'intéresse, et à la place qui est la mienne, comme responsable de communication d'un diocèse, c'est ça que j'ai envie de faire générer pour dire ce qui est important, ce n'est pas le clivage qui va être stérile et qui ne va rien construire. C'est la capacité de pouvoir apprendre à débattre, à dialoguer pour tenter d'avancer ensemble.
Nous écoutons maintenant le diocèse de Poitiers. Voilà.
Simplement, c'était une remarque par rapport aux figures charismatiques. Moi, dans l'expérience d'un diocèse, quand un journaliste, qu'il soit national ou local, demande l'avis de l'Église, il demande systématiquement « Est-ce que l'évêque peut nous parler ?» Or, l'évêque n'a pas forcément le plus pointu sur tous les sujets. Et pour faire émerger des personnes crédibles, compétentes et estampillées et qui passent bien dans les médias, c'est un travail pas si simple que ça. Donc, je rejoins ce que l'on disait à l'instant. Une autre remarque que je me faisais, c'est autrefois, il y a quelques décennies, on avait un certain nombre de grands intellectuels catholiques qui faisaient l'opinion, qui influaient sur l'opinion. Aujourd'hui, des grands intellectuels catholiques qui influent sur l'opinion, je suis très mal informé ou je ne vois pas qui c'est. Et donc, il faut qu'on continue à travailler du côté du laïcat et pas simplement attendre que la hiérarchie et les porte-paroles ou les médias où les hauts valets fassent le travail.
Un mot de conclusion pour Marc Baudrier.
Oui, non mais ce que vous dites est profondément vrai et ce déficit, il y a même un déficit qui est assez grave dans les médias généralistes en termes de compétences sur l'Église, parce que c'est vrai qu'un journal comme Le Monde, par exemple, il y a 40 ans, avait 1, 2, 3, 4 spécialistes vaticanistes, religieux, etc., qui étaient très pointus et qui étaient capables de réagir à chaud sur n'importe quel événement d'Église. Aujourd'hui, ça n'existe plus. À France 2, par exemple, on avait vu dans un cadre la directrice de la rédaction de France 2, bon, elle nous a expliqué que plus personne ne faisait ça. Donc elle y confie ça à des petits jeunes. Et puis il faut bien dire aussi que la vie de l'Église n'a plus du tout la place qu'elle avait à l'époque. Au moment du Concile, tous les jours dans Le Monde, il y avait une demi-page, une page, voire plusieurs pages et la une, tous les jours. C'est absolument inimaginable aujourd'hui. Donc, évidemment, on souffre aussi de ça, de la perte de compétences dans les grands médias, de ce que c'est que l'Église, on ne sait plus très bien de quoi on parle, quoi.
Je vais rajouter une note d'optimisme. On en souffre et en même temps, on l'a vu dans le film d'Éric Payet du Jour du Seigneur ce matin. Et nous, on l'a expérimenté à Rome pendant 5 semaines. On a aussi affaire à une jeune génération de journalistes qui a conscience de ne pas avoir les clés de compréhension de ce qui se vit dans l'Église catholique et qui très spontanément s'adresse à des confrères reconnus pour leur expertise, de la même manière que quand il y a des Jeux Olympiques, on va voir les gars d'Eurosport parce qu'ils ont suivi le dossier de façon constante. Et ils viennent sans complexe prendre comme consultants les uns et les autres. Mon voisin en est un bon exemple. Ils viennent aussi en off énormément nous voir les uns et les autres en disant, dis donc, le truc de demain, là, la prestation de serment, ça veut dire quoi, ça a quel sens, tu peux nous expliquer, etc. Et donc ça, je crois que c'est quand même très positif aussi, parce qu'il y a dans la presse catholique une expertise qui est réelle et qui est reconnue par une génération de journalistes qui n'a pas peut-être les préventions que pouvaient avoir les générations précédentes.
Le mot de la fin sera à notre ami du Conseil pontifical pour les communications sociales. Rapidement, s'il te plaît.
Il a commencé par rappeler la crise de l'enseignement ici en France. Je voudrais simplement redire que en 69, effectivement, dans mon pays, moi j'étais encore au primaire, on a eu
au Burkina Faso.
Ça s'appelait la Haute Volta. Effectivement, ce sont les évêques qui sont allés avec le gouvernement et ils ont perdu la bataille et les écoles ont été récupérées par l'État. comme le système français. Bon, ils sont toujours ensemble, les gouvernements. Et un groupe de laïcs s'est levé. Ils se sont dit, mais attendez, vous ne faites même pas des enfants et puis vous avez monopolisé la parole. Vous nous avez fait perdre les écoles. Et c'est de là qu'est venu le réveil des laïcs au Burkina et l'église famille et pas mal d'initiatives. Et depuis quelques années, ils ont récupéré, l'enseignement catholique a récupéré toutes les écoles catholiques qui avaient été confisquées en 1969. Et même le groupe des laïcs, ils ont créé une université. Et quand l'université a commencé à marcher, ils l'ont remis aux évêques en disant, donnez-lui le baptême, et puis ainsi de suite. Et pour le mot de la fin maintenant, puisque j'ai étudié le journalisme ici en France, justement, quand j'étais là, dans cette école de journalisme à Toulouse, j'ai vécu, j'allais dire douloureusement, cette situation d'être prêtre et d'être dans cette école où bon, certains professeurs étaient vraiment des anticléricaux. Et ils m'insultaient, ils me disaient tout ce que... Et les autres jeunes étudiants qui étaient plus jeunes que moi, parfois ils me disaient, mais il faut réagir là, réagis, réagis. Et je ne réagissais pas. Ils me disaient, mais tu dois réagir, nous voulons réagir. J'ai dit, réagissez au fond de vos cœurs. Mais un jour, notre professeur de faits divers, elle a été tellement abjecte, excusez-moi, que je n'ai pas pu m'empêcher. Et quand j'ai réagi, elle a dit, putain, moi j'ai dit, bordel, tu vas m'écouter. Alors,
Et donc, on
entendait les mouches voler. Et les autres collègues, qui étaient plus jeunes naturellement, ils ont dit, mais on ne savait pas que tu pouvais être aussi virulent. Et résultat, la prof, après, m'a invité à manger et nous sommes devenus amis. Et tout cela pour dire aussi que ces jeunes, ils ne font pas, en fait, c'est pas exprès. Il n'y a plus de culture et il n'y a plus de lieu pour avoir cette culture catholique. Et c'est là où il faut aussi travailler, parce qu'ils continuent à m'appeler, certains d'entre eux, pour avoir des nouvelles. C'était le témoignage que je voulais donner.
Merci beaucoup. Bravo. Alors, vos deux prochains rendez-vous. Pour ceux d'entre nous qui souhaitent participer à la célébration eucharistique, le rendez-vous est à 18h45 devant l'entrée du hall. Et ensuite, il y a un petit quart d'heure de marche. Donc, ceux qui connaissent les lieux se proposent de vous conduire. Rendez-vous à 18h45 à l'entrée de l'hôtel. Ensuite, à 20h30, nous avons un dîner qui, ce soir, je le précise, se tient sous forme de buffet. Voilà, donc vous pourrez vaquer de l'un à l'autre et poursuivre ces discussions. Bonne soirée à tous.